L'agriculture est un domaine en permanente transition et nous vivons dans un territoire riche en initiatives agricoles et alimentaires.
C'est pourquoi Radio Pays d'Hérault, en partenariat avec le Pays Cœur d'Hérault, a rencontré des agriculteurs et des agricultrices de différents horizons.
Ils nous ont parlé de leur quotidien, de leurs pratiques et de leurs difficultés, mais aussi de leur fierté et de leur passion d'exercer ce métier.
Découvrez-les à travers ces portraits.
L'essentiel, c'est que le mouvement, il est réel et il va pas en arrière. Voilà, il va pas en arrière. La viticulture, elle va vers du mieux, et très bien comme ça. Et je suis convaincu que les pratiques, elles ont déjà beaucoup évolué et elles vont continuer à évoluer. Je m'appelle François Boudou. Je suis de Montpérou et je suis vigneron sur l'exploitation familiale. Exploitation qui en est à sa cinquième génération. L'exploitation fait 19 hectares. Elle est essentiellement en appellation d'origine contrôlée, comme beaucoup d'exploitations et de parcelles sur Montpérou. Sur la partie appellation, l'exploitation elle est classique, avec l'encépagement classique de nos appellations, c'est-à-dire des Syrah, des Grenache et des Carignan pour l'essentiel, un petit peu de Cinsault, un petit peu de Mourvèdre. Et sur la partie IGP, c'est du Cabernet et du Marcelin.
Des cépages traditionnels de notre territoire, alors que déjà le Cabernet, c'est un peu plus récent, ça.
Ah, le Cabernet, c'est un cépage de tradition récente, oui. Non, c'est un cépage qui s'est beaucoup développé, notamment dans les années 90 dans la région, avec l'émergence de la production de vins de cépage. Voilà. Et c'est un cépage bordelais et c'est un cépage international. Du Cabernet, on en trouve dans tous les pays du monde aujourd'hui. Et oui, on a mis du Cabernet, du Merlot, et puis aussi du Chardonnay, du Sauvignon. Voilà,
c'était cette idée qu'il fallait arrêter de faire de la bibine dans l'Hérault et de mettre ce qu'ils ont appelé des cépages améliorateurs.
Enfin, on peut élargir un petit peu le débat, parce que la viticulture dans l'Hérault, penser qu'elle est unique, ça serait se tromper. C'est-à-dire, on est quand même dans un département où il y a eu jusqu'à, alors j'ai plus en tête les chiffres, mais plus de 5000 hectares de vignes, je crois. Et avec des zones de production très diverses, qui allait depuis, des plaines profondes fertiles jusqu'à des coteaux très secs ou très arides comme chez nous. Et la viticulture dans ces endroits-là, elle était quand même assez diverse. Donc, en gros, pour faire simple, les parties les plus productives, entre guillemets, en tous les cas, les parties qui sont aujourd'hui les parties vins de pays, se sont massivement orientées vers la production de vins de cépage. Et les parties plus en coteaux se sont plutôt orientées vers des productions d'appellation en capitalisant à la fois sur les cépages traditionnels que sont le Carignan, le Cinsault, le Grenache, il y en a toujours eu dans nos secteurs, mais en y ajoutant des cépages dits améliorateurs, notamment dans les années 80-90, avec l'arrivée de la Syrah, du Mourvèdre notamment.
Est-ce que justement ces cépages qui n'étaient pas de la région, ils ne vont pas avoir encore plus de mal à s'adapter à nos territoires? Et je pense à l'eau et à la sécheresse.
On y pense tous, à l'eau et à l'évolution climatique. Oui, aujourd'hui, c'est un énorme défi qui nous attend et qui attend la viticulture. Enfin, penser que l'unique solution, c'est l'eau, serait une grosse erreur, parce que l'eau, aujourd'hui, il y en a par endroit. Est-ce qu'il y en aura dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, je ne sais pas. Mais oui, on se rend compte aussi que nos cépages traditionnels, alors les plus traditionnels, si on prend le Carignan, par exemple, qui a été beaucoup décrié parce que planté en zone fertile, il a peut-être produit un peu trop et des vins qui ne sont peut-être pas aujourd'hui à notre goût. Voilà. Mais en tous les cas, en zone cultivée raisonnablement en zone de coteaux, ça donne à la fois des résultats intéressants et ça a un comportement vis-à-vis des excès de chaleur et de sécheresse, parce que les deux, je pense qu'il faut distinguer les deux. C'est un cépage qui se comporte bien et qui finalement, qu'on est amené à replanter pour son adaptation aux événements climatiques un peu trop intenses. Et des cépages dits résistants à la sécheresse comme le Grenache, qu'on a beaucoup développé, finalement il n'est pas plus résistant à la chaleur que ce que peut l'être le Carignan, et on a des problèmes aussi avec ce cépage-là. Ce qu'on pensait de certains cépages, on est en train de revoir un petit peu nos opinions, et du coup ça impacte nos stratégies de replantation.
Quelles sont, vous, à titre personnel, vos pratiques agricoles ?
Les choses évoluent en permanence. Hein. On a l'impression que les pratiques qu'on remet en œuvre aujourd'hui sont récentes. Je pense que parfois, elles se rapprochent de celles que pratiquait mon grand-père. Hein. Bon, je pense au labour, par exemple. Bon, il y a eu toute la période des années 70, 80, où ou l'arrivée des désherbants ou des fongicides systémiques ont été perçus globalement, et c'était une réalité, comme un progrès en termes de maîtrise de la production, en termes de coûts de production, etc. Et on est probablement allé beaucoup trop loin sur ces choses-là. Moi, sur l'exploitation, est-ce qu'on y réfléchit ? Oui, on réfléchit tout le temps, c'est depuis longtemps. C'est pas un scoop, moi je suis coopérateur, je suis président de la coopérative. La réflexion, elle n'est jamais tout seul, il faut toujours réfléchir avec ses collègues, avec le collectif et avec la coopérative. Moi, sur mon exploitation, si on parle d'elle, on a une évolution, je dirais, depuis 20 ans, chaque année un peu. L'exploitation, elle est HVE, elle est à l'agriculture raisonnée depuis, je ne sais plus, 15 ans. C'est pas tant ça le sujet. On peut parfois obtenir un label rapidement, mais ce qui est important, c'est de faire évoluer ses pratiques au fur et à mesure qu'on peut le faire. Donc concrètement, aujourd'hui, sur l'exploitation, moi, je n'utilise plus d'herbicides. Tout est passé en labo avec équipement adapté, notamment sur des intercepts. On n'utilise quasiment plus d'insecticides parce qu'on a mené des actions collectives aussi sur le secteur, à la fois pour la confusion sexuelle, pour les problématiques de vers de grappe, et à la fois aussi sur la lutte contre la flavescence dorée avec un groupe au niveau de la commune qui fait des comptages chicadelles, qui repère les éventuels malessèmes malades, si jamais il y en a qui s'assurent qu'ils sont arrachés, etc. Ce qui nous permet d'être dans une zone à traitement adapté, c'est l'arrêté de la préfecture qui nous permet à Montpérou de ne traiter qu'une fois au lieu des trois obligatoires. Donc il en reste une obligatoire malgré tout, mais on n'en a plus trois. Donc cette partie insecticide, elle est fortement réduite. Et pour le reste, on est en agriculture raisonnée depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'on a la chance d'être dans des secteurs où, on va dire que bon an mal an, la pression milieu est relativement modeste, voire faible. La pression idiome, elle existe. Et donc, on a tout un processus d'observation collectif pour faire en sorte qu'on ne traite que quand c'est vraiment nécessaire et avec les interventions les plus pertinentes en fonction du stade phénologique de la vigne, etc. Ce qui veut dire qu'on peut être amené à utiliser des fongicides de synthèse parce qu'il y a des pressions importantes et parce que leur efficacité est raisonnable. Mais parfois aussi, on utilise comme en bio du cuivre, du soufre.
Et donc comme nos grands-pères,
et surtout ce qui est important, c'est le traitement le plus écolo, c'est celui qu'on ne fait pas. Donc déjà, travailler collectivement pour réduire les interventions, tout commence par ça. Parce que même si on utilise un produit homologué en bio, c'est jamais très agréable pour un voisin de prendre du soufre dans les yeux, même si le produit est bio. Donc la première des choses, c'est vraiment surveiller son vignoble et n'intervenir que si c'est nécessaire. La bascule, elle s'est faite, moi je le vois sur l'histoire familiale. Dans les années 70, je n'ai pas les dates exactes, moi j'étais gamin, mais sont apparus de façon quasi concomitante, sont apparus des fongicides de synthèse pénétrants, c'est-à-dire qu'il pleuvait, ce n'était pas lessivé, et donc le produit restait actif pendant les 10 ou 15 jours selon le type de produit. Donc des gens qui avaient tendance à sulfater avec la machine à dos et l'atomiseur et qui marchaient toute la journée pour traiter tranquillement 2 hectares dans la journée, quand ils n'étaient pas obligés de le refaire 3 jours après, ils étaient contents. Bon. Ils sont apparus de façon quasi concomitante les désherbants. Donc les désherbants, c'est quand même une technique qui a permis aux gens de tenir un petit peu leur vigne propre. On est sous des climats méditerranéens où la concurrence de l'herbe, notamment en période sèche, peut être néfaste. Donc on a intérêt d'avoir globalement des sols propres. Et le fait de pouvoir utiliser, plutôt que de labourer avec les engins et les tracteurs de l'époque qui n'avaient pas les mêmes performances qu'aujourd'hui, pas les mêmes puissances, pas les mêmes vitesses, pas les mêmes équipements, le fait de remplacer X labours et X heures de labour par deux passages où finalement on avait des vignes nickel, c'était quand même un progrès en termes de travail et de la perception du progrès en termes social. Pour le vigneron, d'abord, c'était quand même énorme. C'est-à-dire, à la fois, il assurait un petit peu plus facilement l'état sanitaire de sa récolte, et en plus, globalement, il avait moins de travail pour une meilleure efficacité. Donc, ça a été perçu comme un progrès très important. Et ça s'est développé sans doute trop, parce qu'on a oublié un petit peu que quand même, il y a des effets secondaires, il y a des effets induits sur le type de sol, sur les accoutumances, sur etc., etc. Et puis, on a commencé quand même à se poser des questions sur ce genre de choses. Ce qui a fait globalement bouger les lignes, c'est que, premièrement, le vin, on est de plus en plus sur des vins des vins plaisir. Hein. Le vin, boisson de base que les gens achètent parce qu'ils ont besoin de leur dose quotidienne, ça n'existe plus. On n'est plus au début du XXe siècle où les gens buvaient 5 litres de vin par jour, quelle que soit la qualité. Donc globalement, qu'on soit en IGP, en vin de cépage, en appellation, on est globalement sur des productions de plus en plus de vins plaisir. Ça veut dire que le vin n'est pas une denrée qui est obligatoire dans la ration alimentaire. Donc les gens qui nous l'achètent, ils veulent bien nous l'acheter, à condition que ça leur fasse plaisir. Alors ça leur fasse plaisir en termes, quand ils vont le boire, mais que ça leur fasse plaisir intellectuellement aussi. C'est-à-dire, ce vin que vous achetez, si on leur dit, il est produit avec des produits chimiques et élaboré par des enfants de 12 ans qu'on exploite, ça ne va pas leur plaire. Et donc, forcément, à partir du moment où on a l'ambition de valoriser nos vins en termes de qualité et en termes de prix de vente, ça veut dire aussi qu'il faut se soucier de la façon dont il est produit en termes environnemental au sens très large, c'est-à-dire socialement et écologiquement. Et donc, petit à petit, on voit évoluer les pratiques des vignerons, notamment parce que c'est pas cohérent aujourd'hui par rapport au type de vin qu'on veut faire et par rapport au marché qu'on cible de ne pas prendre en compte tous les enjeux de sol, d'environnement, de voisinage, etc., etc. Et donc, ce mouvement-là, il concerne tout le monde, parce que les vignerons, ils sont comme les autres. Ils se soucient aussi, à titre personnel, d'un certain nombre de choses qui préoccupent la société et qui peut-être nous préoccupaient tous moins il y a 30 ou 40 ans. Et donc, voilà, les évolutions, elles se font logiquement et de façon profonde et généralisée.
On va parler maintenant un petit peu de ce raisin qu'il faut transformer en vin. Et ici, c'est votre cas, vous l'amenez à la coopérative. Alors, vous me parlez tout à l'heure comment la chimie a été ressentie par les viticulteurs de l'époque comme un progrès. La coopérative aussi.
On dit souvent que la coopération est fille de misère. Moi, je crois que c'est profondément moderne, les coopératives. Voilà. La tendance à se regrouper pour mieux résister, c'est une tendance naturelle. Et effectivement, c'est les mouvements collectifs, les associations, les regroupements, et la coopération fait partie de ce genre de mouvement. Quand il y a des difficultés, et notamment des difficultés commerciales, parce que quand même les coopératives, elles ont d'abord été créées pour ça, c'est-à-dire permettre de pouvoir stocker, parfois, et puis vendre le vin. Hein. Bon. Les gens ont eu tendance à dire, ben oui, regroupons-nous, on aura plus de moyens, on sera plus fort, on va mieux vendre, etc., etc. Je pense que c'est toujours un petit peu quand même le cas et la vocation des coopératives. Nous, on le voit ici sur le village, la coopérative de Montpérou était créée en 1950, donc pour l'Hérault, c'est une coopérative relativement jeune. Quand les périodes sont fastes, il y a toujours plein de gens qui ont d'abord des idées, qui ont envie de le faire tout seul, qui sont très critiques envers la coopérative parce que, bien sûr, on peut toujours mieux faire. Hein, voilà. Par contre, quand les moments sont difficiles, là, les gens ont tendance un peu à se resserrer et on entend moins de dissonances ou de commentaires divergents. Puis on dit souvent que seul, on avance plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Bon. On n'est pas un industriel, on est petit, on est modeste. Alors parfois, les coopératives, les villages, c'est perçu comme des gros trucs, mais bon, quand on va sur les marchés, quand on voit les structures françaises ou étrangères parfois qui sont en face de nous, on est vraiment des petits artisans, voilà. Et puis à dimension, on connaît chaque parcelle, on connaît chaque vigneron, on essaye de faire les choses avec cœur et de façon très précise. Engagé, oui, parce que nous, on pense que la coopérative, elle doit avoir un rôle moteur, c'est-à-dire elle doit valoriser le travail de ses adhérents, mais elle doit aussi amener de l'innovation, elle doit communiquer autour de sa production et elle doit faire aussi progresser le collectif, alors à la fois sur la qualité des vins, mais sur l'environnement, sur la façon de faire, sur la modernité, etc. Donc une coopérative, elle n'est pas juste à « je reçois des raisins, je fais le mieux possible et puis j'ai fini ». Non, il y a aussi une dimension prospective pour que, si possible, demain soit meilleur qu'aujourd'hui et que les générations suivantes puissent continuer le métier.
Depuis des dizaines et des dizaines d'années, un tas de coopératives ont fermé. Ici, dans l'Hérault, il y avait pratiquement une coopérative par village. Et petit à petit, qu'est-ce qui s'est passé?
C'est dur de me poser la question à moi, parce que moi, je suis président d'une coopérative qui a été créée en 50 ans et qui, depuis 50 ans, n'a pas bougé. Non, ce que je pense, d'abord, ce qui s'est passé, c'est qu'on est dans un département, alors le nombre d'hectares, il a fortement chuté. Beaucoup d'entreprises coopératives étaient assises sur une stratégie de je produis le moins cher possible parce que de toute façon je vendrai au prix du marché. Donc, quand vous êtes en stratégie de coût de production, forcément, quand vous avez moins d'hectares, vous devenez moins compétitif. Et la tendance naturelle, c'est de se regrouper avec le voisin pour garder cet avantage compétitif. Donc, je pense qu'il y a eu beaucoup de mouvements liés à ça. On le voit ici, quand vous regardez, par exemple, sur une commune voisine comme Saint-André, le nombre d'hectares de vignes. Saint-André, la coopérative de Saint-André faisait, moi, quand j'étais gamin, faisait plus de 100 000 hectares. Bon, aujourd'hui, à Saint-André, il y a quasiment plus de vignerons, entre guillemets. Enfin, il y en a quelques-uns, mais le vignoble, il a été pris par l'autoroute, par l'urbanisation, par Lidl, par la zone artisanale, etc. etc. Et donc, ces hectares-là n'y sont plus. Vous avez la même chose à Gignac. Et donc, on se retrouve sur des bassins de production. À un moment donné, les grosses structures, ben, elles ont vu fondre leurs vignobles, se regrouper pour continuer à travailler dans un système de performant en termes de coût de production. Pour moi, c'est quand même l'élément essentiel.
On a parlé un petit peu de l'eau et de la sécheresse, de la chaleur. Il y a un projet dans l'Hérault de faire des bassines, des retenues d'eau pour la viticulture. Est-ce que c'est un bon calcul de mettre de l'argent public pour arroser la vigne ?
C'est un gros débat. Alors, d'abord, je pense que la vigne est et restera encore pendant longtemps quand même un élément majeur de l'économie locale. Donc, tout ce qui peut lui permettre d'être un peu plus adaptée, performante, résiliente, est important. L'eau, c'est un des gros enjeux. Bon. Aujourd'hui, les installations ou les systèmes d'irrigation pour l'agriculture, s'il n'y a pas les pouvoirs publics derrière, l'agriculture n'a pas les moyens de se le faire tout seul, quoi. Le problème, c'est qu'on rentre vite dans des débats idéologiques. Est-ce qu'il faut mettre de l'eau ou pas pour faire du vin ? Je le disais tout à l'heure, le vin, ce n'est pas un produit obligatoire dans la ration alimentaire. Donc, certes, on peut utiliser de l'eau, mais il faut être raisonnable. Donc, il y a peut-être des situations où on est raisonnable et peut-être des situations où on l'est moins. Il faut déjà que l'agriculture fasse son autocritique et de dire, si je caricature, on ne peut pas à la fois revendiquer de l'eau pour irriguer et de l'aide à la distillation. Il y a un problème. Voilà. Par contre, on connaît des exploitations, notamment en zone de coteaux, qui font des vins remarquables, qui commercialisent tout en bouteille à des prix élevés, qui ont 5 salariés, qui font venir des touristes, qui font venir du monde. Et moi, je dis, ces gens-là, s'ils souffrent trop, parce que 2 années sur 3, on a des sécheresses importantes, si on peut amener un peu d'eau pour permettre que cette économie très locale, et qui est structurante pour la région et pour la petite région, elle puisse quand même s'en sortir mieux, moi, je pense que ça, c'est important. Je pense qu'on a tort d'envisager irriguer, pas irriguer. Il faut regarder où est-ce qu'on le met. Moi, j'ai eu l'occasion d'intervenir parfois dans des réunions professionnelles. Les pouvoirs publics ont aussi parfois mis des règles qui étaient complètement inadaptées, à mon sens. Par exemple, les dossiers éligibles étaient les dossiers qui coûtaient le moins cher. Bon. Pour irriguer, en général, le moins cher, c'est quand on irrigue à côté de la source. Plus vous êtes proche de l'eau, moins ça coûte cher. Et plus, aujourd'hui, l'irrigation est développée. C'est-à-dire que l'irrigation, elle est plus développée dans les endroits où il y en a le moins besoin. Ça, c'est quand même problématique. Voilà. Ensuite, on a des systèmes d'irrigation, parfois, qui sont inadaptés. Inadaptés techniquement, parce que c'est aberrant aujourd'hui de voir des arrosages de vignes avec des gros asperceurs qui consomment beaucoup d'eau. Bon, ça, c'est aberrant. C'est aberrant d'avoir encore des systèmes, parce qu'ils sont en place depuis des années, où on peut utiliser de l'eau. C'est-à-dire, on a le droit de l'eau. Alors, on en prend, puis peu importe le nombre de mètres cubes, bon, ça, c'est pas raisonnable aujourd'hui. Voilà. Donc, il faut que l'agriculture le fasse évoluer et qu'elle soit, la viticulture en particulier, qu'elle soit bien consciente des enjeux et qu'elle soit la plus irréprochable possible sur sa façon de gérer, d'optimiser l'eau. Parce que l'eau, c'est un bien précieux et commun. Aujourd'hui, il y a des engagements parfois politiques qui disent « oui, on réserve tant de mètres cubes pour la viticulture ». Rien ne nous dit que ça va durer. Donc, le fait qu'on ait des installations et qu'on ait un élu qui dise « oui, vous pouvez prendre de l'eau à tel endroit », ça n'aggrave pas dans le marbre le fait qu'on aura de l'eau tout le temps. Donc, il faut quand même, d'une part, être sûr qu'on l'utilise bien. Et d'autre part, se poser la question où est-ce qu'il faut la mettre pour que ce soit le plus efficace et le plus pertinent pour la filière.
Alors, on arrive à la fin de cet entretien. Vous êtes, on l'a dit, on l'a évoqué tout à l'heure, président de la cave coopérative. Parlez-nous un peu de la cave, faites un peu la promotion de la cave de Montpérou, là.
La coopérative s'appelle Castelbary, donc c'est une coopérative qui est, je l'ai dit tout à l'heure, sur 450 hectares environ, 90 adhérents, qui est majoritairement tournée vers l'appellation d'origine. Donc nous, on produit des AOC Languedoc Montpérou, puisque Montpérou est un des terroirs historiques de l'appellation Languedoc, et on travaille avec nos amis des caves particulières, on milite pour la reconnaissance en appellation communal, le dossier qui est en cours. On est aussi au cœur de la zone terrasse du Larzac et on est un producteur majeur de cette appellation auquel on contribue et on est engagé depuis le début. Et puis on produit des Languedoc et puis on produit aussi quelques IGP. La particularité de la cave, c'est d'avoir cru, d'avoir pensé très tôt que c'était important pour valoriser nos vins de bien les produire. Donc on a fait le choix en 2009 d'orienter le maximum de nos exploitants vers l'agriculture raisonnée. Peut-être que si on le faisait aujourd'hui, on le ferait un petit peu différemment, mais peu importe. En tous les cas, ça nous a permis de beaucoup progresser, de faire venir le maximum de notre production vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Aujourd'hui, on n'a plus d'appellation qui ne soit pas sous label environnemental, donc soit Terra Vitis, soit bio, enfin, ou HVE, mais tout le monde est HVE. Que vous dire d'autre ? On va plus loin que ça, puisqu'on est sur une commune à un seul traitement pour la cicadelle. On a développé la confusion sexuelle avec des diffuseurs biodégradables sur notre vignoble. Donc voilà, on milite là-dessus depuis très longtemps. Et la coopérative est également évaluée alors sur... à démarche de développement durable. Donc on a à la fois le label Vigneron Engagé depuis 6 ans, je crois, et on est aussi évalué par l'AFNOR sur les normes de l'ISO 26000. Alors c'est un peu, c'est moins sexy, ISO 26000 pour le commun des mortels. Mais en gros, ça veut dire qu'on est, en termes de développement durable et de responsabilité sociétale, on est évalué au niveau exemplaire. Donc ce qui nous fait plaisir, ce qui veut dire que notre travail aussi est reconnu pour faire en sorte que la coopérative ait des pratiques cohérente et que ça puisse contribuer à faire perdurer la viticulture sur notre beau village.
Alors sur votre publicité, il y a écrit « Nous sommes ce que nous faisons ». Vous avez l'air de faire le mieux possible en tout cas.
Bah oui, parce qu'il faut toujours quand même commencer par bien faire son métier le mieux possible. On peut toujours aller dire c'est la faute des autres ou réclamer de l'aide, mais nous on croit que ce qui est important c'est de faire et de travailler sur notre terroir, sur nos vins, sur notre métier. Ça c'est la base. Si nos vins ils sont pas faits, s'ils sont pas bons, s'ils sont pas faits avec amour, passion et respect de l'environnement au sens large. Bon, après, le reste, c'est la littérature. Hein. Bon, il faut commencer par faire ça. Voilà.
François Boudou, merci pour cet entretien et votre accueil ici à Montpérou.
Avec plaisir.
C'était François Boudou, un portrait d'agriculteur réalisé par Radio Pays d'Hérault en partenariat avec le Pays Cœur d'Hérault. Tous les podcasts sur rphfm.org.